Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Mélène Betty.
Il est 12h partout en Côte d'Ivoire et vous faites bien de suivre l'édition de la mi-journée de Radio de la Paix dont voici les titres. L'ONG Aube Nouvelle sensibilise les populations de la région du Gbeke à la paix et à la cohésion sociale en période électorale. Dans cette édition, vous entendrez son premier responsable, Vincent Toby Irié. Le segment des experts de la conférence ministérielle africaine en charge de l'environnement réfléchissent sur les propositions de l'Afrique dans le cadre de la prochaine COP16 en Arabie Saoudite. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, 81 morts dans un raid djihadiste présumé sur un village du Nord. Et dans ce journal, nous parlerons de l'autonomisation des femmes. Pour la circonstance, nous irons à Fakoubli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et en toute fin du journal, nous aurons comme invité de la rédaction l'expert en sécurité et professeur d'histoire, Arthur Banga. Il se prononcera sur le gel des avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Voici pour l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous. Rendons-nous au centre du pays. L'ONG Aube Nouvelle a invité à un consensus à toutes les étapes du processus électoral afin de garantir la stabilité du pays. C'est le plaidoyer qu'a fait le président de l'ONG Aube Nouvelle le samedi 31 août dernier à l'occasion d'une cérémonie de sensibilisation des populations de Diabo dans la région de Gbeke sur la cohésion sociale et le développement local. L'ancien préfet d'Abidjan s'est par ailleurs félicité du professionnalisme dont les journalistes font preuve dans le traitement des informations. Vincent Toby Irié, dans des propos recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant sur place.
Certaines de nos communautés ont connu des déchirements, ont connu des périodes d'instabilité. Donc, il ne faut pas arrêter de sensibiliser et de consolider la base sociale qui permet le développement. Nous sommes arrivés loin, pour arriver plus loin que ça, nous avons la paix. Il ne faut pas qu'on voit un problème si nous disons qu'il faut qu'il y ait de l'équité, de la justice ou qu'il y ait un compromis maximal à l'approche d'un processus électoral. C'est ce qu'il faut pour stabiliser un pays. Donc, nous demandons le consensus dans toutes les étapes. On le demande aux gouvernants, on le demande aux partis politiques, partis au pouvoir, partis d'opposition, société civile, chefferie, jeunes et vous, la presse également. Et je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais nous avons fait un suivi de la vie politique en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Les gros problèmes aujourd'hui des débats politiques, c'est pas la presse. Oui, c'est pas vous aujourd'hui, avec les sensibilisations, le travail qui a été fait en votre sein, avec votre professionnalisation, vos articles de presse ne sont pas trop à la base des problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Mais c'est plutôt la presse libre que j'appelle, c'est-à-dire Facebook, Internet, où des gens qui ne sont pas régis par une certaine éthique et lancent des mots et ça enflamme. D'abord, il y a eu 17 morts. Il y a eu 17 morts justement parce que les gens sont allés sur Facebook pour dire que tel a tué telle communauté, a tué telle communauté. Donc chacun doit participer. Et donc, pourquoi on arrive à un processus? Il faut que les gouvernants, la presse, tout le monde soit conscient de l'enjeu. Ce n'est plus la question de possession du pouvoir ou de conquête du pouvoir. C'est une question de penser à l'État. Il ne faut pas qu'on voit un problème si nous disons qu'il faut qu'il y ait de l'équité, de la justice ou qu'il y ait un compromis maximal à l'approche d'un processus électoral. C'est ce qu'il faut pour stabiliser un pays. Et je dis que si à la base on se comporte de façon responsable, on n'aura pas de problème.
À l'instant, Vincent Toby Irié, président de Aube Nouvelle. Après Boaké, rendons-nous à Yamoussoukro où s'est tenue une conférence publique organisée samedi dernier par l'Alliance pour la survie de ma culture, en abrégé ma culture, autour du thème Vivre heureux en Côte d'Ivoire ou comment déconstruire l'illusion de l'Occident, paradis terrestre. Elle s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Objectif de cette activité, sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration irrégulière. Des détails avec Émile Yao.
Vivre heureux en Côte d'Ivoire ou comment déconstruire l'illusion de l'Occident paradis terrestre. Thème évocateur, véritable défi pour la Côte d'Ivoire, selon Dr Zoué Boni, président de l'Alliance pour la survie de ma culture.
Le thème de la présente conférence nous plonge dans l'éveil de conscience pour éviter le tumultueux reniement de soi qui amène au culte de l'exotisme. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand défi. La preuve, en Côte d'Ivoire, le reniement de soi dû à la propagande du faux entraîne le rejet des richesses culturelles et naturelles, l'immigration tous azimuts et la perversité.
Pour le conférencier, son Excellence Angoura Yao Emmanuel, le thème du jour doit sonner comme un appel à une prise de conscience à la fois collective et individuelle pour la jeunesse.
Pour dire à la jeunesse que aller à l'extérieur est une bonne chose, mais aller sans aucune construction de projet, se projeter dans la mer, dans le désert, en étant abusivement utilisé par des esclavagistes, eh bien, cela doit être réfléchi sérieusement.
Représentant le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Kwaku Mathias salue l'initiative.
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix encourage ma culture à toujours œuvrer à travers ce genre d'activité pour faire prévaloir les valeurs africaines qui contribueront au développement socio-culturel et économique de nos pays au sud du Sahara.
Créé le 8 mai 2021, le mouvement culturel Ma Culture intègre tous les groupes ethniques et communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
De retour à Abidjan où hier mardi 3 septembre 2024 dans la commune de Cocody, des experts se sont réunis en marge de la 10e session de la conférence interministérielle des ministres en charge de l'environnement africain pour souligner l'ambition de l'Afrique dans la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. Durant deux jours, ils travailleront à l'élaboration des propositions en vue de la participation des 54 États africains à la prochaine COP 16 qui se tiendra début décembre en Arabie Saoudite. Parfait Kouadio, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.
Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, environ 45% de la superficie de l'Afrique est touchée par la désertification et la sécheresse et 55% de cette superficie présente un risque élevé ou très élevé de dégradation supplémentaire. La désertification touche près de 12 millions d'hectares de terre chaque année et affecte 40% de la population mondiale. Cette 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine de l'environnement est l'occasion pour nous de mettre en lumière la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, et surtout de renforcer l'élan politique dans la priorisation des efforts visant à combattre et à atténuer les véritables menaces qui pèsent sur nos pays. C'est dans l'Union que nous devons mener la lutte contre la sécheresse, la perte de la biodiversité et le changement climatique pour un monde meilleur pour nous et surtout pour les générations futures. À Abidjan, nous disons souvent que quand vous êtes seul, vous allez vite. Mais quand vous êtes en groupe, que vous êtes plusieurs, vous allez loin. C'est ensemble que nous pouvons mener donc et gagner ce combat contre la désertification, la perte de la biodiversité et le changement climatique.
À l'instant, Parfait Kouadio, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Parlons sécurité routière. Zéro accident de la route en cette période de rentrée scolaire. C'est le thème de la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière organisée par l'Office de sécurité routière, OSER. Le lancement officiel s'est tenu hier à Abidjan, à la mairie de Yopougon, en présence du premier adjoint au maire, représentant le maire Adama Bictogo, Junior Cardin.
La période de la rentrée scolaire mérite beaucoup d'attention chez les conducteurs et les usagers de la route. Au dire du directeur général de l'OSER, Office de sécurité routière, Étienne Kouakou, à ce lancement.
Nous pensons que les messages ont été bien compris. Nous voudrions donc souhaiter une très bonne rentrée scolaire à l'ensemble des élèves et étudiants et surtout beaucoup de prudence à nos conducteurs routiers pour que le thème zéro accident en cette période de rentrée soit une réalité. Parce qu'on l'a dit, 95% des accidents sont du fait de l'homme.
Dans le compartiment conducteur comme dans le compartiment patron, nous devons nous approprier tout ce qui est dit par l'OSER. C'est le souhait du directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahim.
Pour que sur nos routes, les dispositions puissent être prises par nos conducteurs et par nos transporteurs, pour que la question de la maîtrise de la sécurité routière, l'environnement dans lequel nous travaillons, en tenant compte de la position mécanique du véhicule, de l'état mental même du conducteur, nous puissions être à même d'assurer ce travail en préservant les vies humaines.
Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, a pris un engagement devant les nombreuses interpellations qui visent sa corporation.
Nous avons chargé déjà tous nos chefs de ligne à regarder le comportement des conducteurs avant tout départ. Quand on voit quelqu'un qui a les yeux trop rouges, on sait ce qu'il a pris. Quand on voit quelqu'un qui dandine, il n'a pas le droit de prendre le volant. Quand on dit le facteur humain reprend 95%, c'est une réalité. Mais il y a aussi le facteur du stress que les forces de défense de sécurité mettent sur nos conducteurs sur les routes. Le racket était parti, mais il est revenu.
Notons que sur les 10 communes d'Abidjan, Abobo, Yopougon et Cocody cumulent à L3 plus de 50% des accidents de la circulation et de tués sur les routes.
Célébrée le 31 août de chaque année, la journée mondiale du blog a été célébrée en Côte d'Ivoire le vendredi 30 août dernier. L'association des blogueurs de Côte d'Ivoire a bien voulu marquer l'événement par l'organisation d'un panel au siège de l'UNESCO à Abidjan. Cette rencontre qui s'est articulée autour des défis et opportunités du blogging, le compte rendu de Didier Blé.
L'avenir du blogging en Côte d'Ivoire, c'est le thème de cette rencontre. Du journal intime à l'enfance médiatique sur les réseaux sociaux, le blogging a évolué. Rita Kouaminan, présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire.
Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de montrer que le blogging est une opportunité pour la jeunesse et pour celui qui fait la pratique du blogging. Et c'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui à travers ce panel d'experts-là. L'essence même du blog, c'est de former, d'informer ou de défendre une cause. Donc, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné.
Présence d'influence. Intelligence artificielle, comment s'y prendre? Syria Bogou, panéliste et membre fondateur de l'association.
Le blogging déjà, c'est le fait de tenir un blog, donc un mini-site dans lequel on peut mettre des tests, et dans ces tests on peut mettre de l'audio, de la vidéo et presque tous les formats. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, on constate qu'il y a des nouveaux formats qui arrivent, comme des podcasts et comme faire de la vidéo. Aujourd'hui, c'est de se dire, par rapport à tout ça, comment moi je me positionne.
Créateur de contenu, vidéaste, youtubeur, la journée mondiale du blog va au-delà d'une simple tendance numérique, c'est un hommage au désir de partager et de se connecter.
Stéphane Mogon, je suis chef de projet digital. Je me rends compte que l'univers blogging en Côte d'Ivoire est quand même négligé par un bon nombre de personnes, mais c'est tellement important, vu qu'on est dans une ère où le contenu est roi.
L'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, ABCI, existe depuis août 2013. Elle réunit des personnes issues de tous les secteurs d'activité et engagées dans le développement de diverses thématiques.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une nouvelle attaque djihadiste dans le nord-est du Nigeria, selon les autorités locales. Selon la police de l'État de Yobe, environ 150 membres présumés du groupe Boko Haram munis d'armes à feu et de grenades ont attaqué à moto le village de Mafa dimanche vers 16h. Et puis en Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été blessé hier mardi par une grenade lacrymogène. Selon son parti, son avocat a déclaré à l'AFP qu'il devra subir une opération pour retirer des fragments de la grenade logée dans sa jambe. Il reçoit toujours des soins médicaux bien qu'il soit hors de danger. Les médecins chirurgicaux sont nécessaires pour retirer les fragments présumés de la grenade, a précisé Georges Massissi, l'avocat de Bobi Wine. Retour en Côte d'Ivoire et mettons le cap sur le district autonome des montagnes à l'ouest du pays. Une fédération de différentes associations de femmes du vivrier, commerçantes et bien d'autres domaines d'activité vient de voir le jour dans le département de Fakoubli. Objectif, permettre à ses membres de cette fédération d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Des détails dans ce dossier d'actualité de Stéphane Adams, notre correspondante dans la région du Tampi.
Fakoubli, département dans la région du Guémont. Le mardi, ces rues sont transformées en marché. Ici, les produits vivriers sont exposés à même le sol. Des activités menées par les femmes du chef-lieu, du département et des villages environnants. Tous ces produits agricoles connaissent une mévente sur le marché local. Présidente de coopérative, Dame Foyer Agnès, relate ses faits.
On produit tout ce qui est vivrier. À Fakoubli, il y a des villages, on a problème pour faire sortir nos vivriers. On produit aussi manioc, mais on ne sait pas comment il faut faire pour évacuer, qui va acheter. Donc ça reste en brousse et ça pourrit.
Au vu de cette difficulté qui n'arrange guère les femmes, elles ont décidé de parler désormais d'une même voix, fédérer leurs forces. La présidente de l'association des femmes de Fakoubli, Félicité Désiré Sérékoué.
Le but même de l'association, c'est de mettre ensemble les femmes du département de Fakoubli pour qu'elles soient autonomes de nos jours, nos soeurs. Il faut les booster pour pouvoir travailler. Et pour qu'elles travaillent, il faut leur donner les moyens. Et nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, avec le soutien de nos autorités, de nos frères qui sont déjà sur place avec nos sœurs, nous allons œuvrer dans ce sens-là.
En outre, cette fédération compte une centaine de groupements et d'associations de femmes œuvrant en majorité dans le domaine agricole. Une initiative saluée par les autorités de la ville. Le parrain de la cérémonie, Moïse Nyamke, de relever ce qui suit.
Et non, aucune existence légale. Ça fait que tous les fonds qui existent aujourd'hui au plan national, elles ne peuvent pas les capter. On ne peut même pas les aider si on le veut à travers des financements des projets et autres. Donc nous avons commencé déjà par la phase d'existence légale de cette association et ensuite nous allons continuer avec elles pour les accompagner sur le terrain véritablement que nous avons découvert. À travers l'OCPV aujourd'hui, l'OCPV nous offre véritablement, je dirais, cette chance de pouvoir cultiver, de pouvoir acheter nos produits sans difficulté d'écoulement.
Quant au député Gaspard Seyi, il promet de s'investir pour la réussite de cette initiative pour le bien-être de ses femmes.
Cette initiative, si elle va au bout, elle permettra à nos mamans de profiter de leur production, des écoulées, de les vendre. Et donc, en tant qu'élu, nous ferons en sorte que ce projet aille jusqu'à son terme.
Notons que le département de Fakobli reste tout de même un vaste chantier de développement. Stéphane Adams, de retour de Fakobli, Radio de la Paix.
Dernière articulation de cette édition, l'invité de la rédaction. Il est expert en sécurité, professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il se félicite de la vigilance des sécurocrates ivoiriens qui permet de geler actuellement les avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Professeur Arthur Banga en entretien avec Francis Cassi.
Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
La Côte d'Ivoire vient d'annoncer avoir gelé des avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Est-ce que vous êtes au courant?
Oui, l'État a communiqué officiellement, le parquet a communiqué officiellement sur sa décision de geler les avoirs. Parce que faut comprendre que le terrorisme, c'est aussi le financement du terrorisme. Ce n'est pas que les gens mènent des actions pour qu'ils recrutent, il faut de l'argent. Et donc le rôle de l'État aussi, les enquêtes, regardent aussi cet aspect financier, ces flux financiers qui peuvent approvisionner les circuits ou les fonds des groupes terroristes. C'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire, après enquête, a décidé de saisir les 9 comptes.
Donc les comptes sont gelés, les personnes sont aussi en prison?
Non, pour l'instant, c'est les comptes qui sont gelés. De toute façon, la justice a communiqué si le compte est gelé. Naturellement, si les comptes sont gelés, c'est qu'il y a au moins de fortes suspicions. Et donc, la justice va continuer son travail. Mais si on vous gèle des comptes, c'est qu'on est d'accord que vous avez un lien avec les groupes terroristes. La justice va poursuivre son travail.
Mais comment est-ce que l'État a pu savoir que ces personnes-là ont un lien avec le terrorisme?
Ouais, parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur toute action des groupes terroristes. Quand on capture des terroristes qui écoutent des conversations, qui suivaient aussi des flux financiers, qui suivaient le blanchiment d'argent, et donc tout ça permet à l'État d'avoir dans une certaine mesure l'idée de l'activité sur certains comptes.
Quels sont les profils de ces personnes-là?
On trouve de tout, les financements du terrorisme, ils concernent tout le monde. Vous pouvez avoir des hommes d'affaires qui, par leurs affaires, facilitent le blanchiment d'argent. Vous pouvez avoir même des religieux qui, sous le couvert de leur religion, financent les terroristes. Vous pouvez avoir même des ONG.
Mais vous, en tant qu'expert, quand vous avez appris ça, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce à dire que la menace terroriste est réelle contre la Côte d'Ivoire?
La menace a toujours été réelle contre la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'attaque d'ampleur qu'on va considérer que la menace est derrière nous. Non, la Côte d'Ivoire est toujours dans le deuil du cyclone. Elle est toujours surveillée et enviée par les groupes terroristes.
Maintenant que des avoirs de certaines personnes sont gelés, comment est-ce que la décision se fait?
C'est une décision de justice. Après des enquêtes, le parquet national financier, le parquet de lutte contre le terrorisme, va essayer de trouver, à partir des preuves qu'ils vont rassembler, ils vont maintenant décider de geler des comptes. C'est une décision de justice suite à des enquêtes qui vont mobiliser les renseignements et tout ça pour permettre de voir que des comptes sont suspects ou des comptes ont alimenté les activités terroristes.
Mais est-ce que dans ce cadre-là, il n'y aurait pas simplement des dénonciations calomnieuses? Peut-être quelqu'un a une dent noire contre un autre et puis bon, il va en profiter aussi pour faire une dénonciation calomnieuse contre cette personne-là.
Mais c'est pour ça qu'il y a un travail d'enquête. C'est pas parce que vous déclarez que quelqu'un a financé le terrorisme, c'est pas parce que vous dites le nom de quelqu'un dans une affaire qu'il est coupable. Dans un état de droit, c'est cela. Voilà, et donc il faut conserver la présomption d'innocence des gens jusqu'à ce que la justice prenne une décision. Là, on en parle parce que c'est une décision de justice. Mais la présomption d'innocence, c'est le fondement du droit. C'est pas parce que vous êtes accusé ou vous êtes suspecté que vous êtes coupable.
Alors, les effets d'une telle décision sur la population, quand la population a appris que il y a des personnes en lien avec le terrorisme dont les avoirs ont été gelés, quel effet ça fait?
Ça montre d'abord du côté positif que l'État prend au sérieux cette question, que les enquêtes se mêlent, que le renseignement travaille, que la justice est mobilisée. Maintenant, l'envers du décor, c'est que nous sommes toujours sous la menace et il faut qu'on garde une certaine vigilance.
Dans ce cas, vous, en tant qu'expert, quel conseil vous donnez aux citoyens lambda que nous sommes?
de collaborer avec la police, de ne pas hésiter une seule fois à signaler quand il y a des mouvements suspects ou quand ils font une activité économique suspecte ou quand ils font qu'il peut y avoir du blanchiment d'argent. Il faut toujours collaborer avec les autorités qui seront à même, comme dans ce cas-là, de poursuivre les enquêtes.
Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit qu'il se cacherait aussi des religieux, des personnes d'ONG parmi ces présumés terroristes dont on se méfie. Alors, comment est-ce que des gens qui disent parler de la part de Dieu et aussi qui disent œuvrer pour le social peuvent et puis comme ça changer en faveur d'un tel phénomène aussi sinistre que le terrorisme?
Non, parce que la stratégie des groupes terroristes, ce n'est pas que de l'attaque. L'attaque, que vous voyez, c'est la fin du processus. Il y a un processus de séduction, il y a un processus d'adhésion. On peut adhérer à une cause religieuse en ayant une certaine lecture de la Bible, du Coran ou de n'importe quel livre saint que vous emmenez à vous radicaliser. La deuxième chose, c'est que vous, socialement, vous pouvez voir qu'une ONG liée à tel ou tel groupe réussit à apporter des réponses sociales dans votre environnement que l'État n'arrive pas à faire. Et donc tout ça permet aux groupes terroristes de prendre pied et d'utiliser ces moyens-là pour séduire et pour s'implanter.
Alors comment un tel phénomène, le terrorisme, a pu, je vais dire, conquérir le monde? On parle un peu partout de terrorisme. Pourquoi?
C'est aussi vieux que le monde, j'ai envie de dire. Le terrorisme a utilisé la peur pour imposer ses idées. Ça a été même fois fait. Voilà, aujourd'hui, ça prend une nouvelle ampleur parce que il y a une sorte de mondialisation aussi des groupes terroristes et parce que dans certains pays, il y a des facteurs qui vont le favoriser. Ça peut être des facteurs sociaux, la pauvreté, les tensions entre différentes composantes de la société. Ça peut être aussi une vraie perception, une vraie conviction de la religion.
Alors, vous avez dit qu'on utilise la peur pour vouloir imposer ses idées. Mais pourquoi ne pas utiliser les arguments, les débats pour vouloir imposer ses idées?
Voilà, parce que chacun choisit ses moyens.
Mais avec le terrorisme, le monde est vraiment en danger.
Bien sûr, nous sommes en danger. Après, il y a plusieurs de nos États qui sont aujourd'hui quasiment déliqués. Ce qui se passe dans le Sahel, ça s'explique en grande partie par cet extrémisme violent qui a désagrégé les États, qui a affaibli le pouvoir des dirigeants élus et qui a donné des prétextes à des putschistes.
Professeur Arthur Banga, je vous remercie.
Merci.
Le professeur Arthur Banga était l'invité de la rédaction, rappelant qu'il est expert en sécurité et professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. L'ONG Aube Nouvelle sensibilise les populations de la région du Gbeke à la paix et à la cohésion sociale en période électorale. Le segment des experts de la conférence ministérielle africaine en charge de l'environnement réfléchit sur les propositions de l'Afrique dans le cadre de la prochaine COP16 en Arabie Saoudite. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, 81 morts dans un raid djihadiste présumé sur un village dans le nord. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la rédaction 15h. Mais avant, dans un court instant, la revue de la presse ivoirienne proposée par Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous. Après plus d'un mois hors du pays, Tidjane Thiam, président du PDCI, est de retour.